Bonjour, Madame Barre.
Bonjour, Monsieur Saint-Pierre, ça va bien?
Ça va très bien, c'est la première fois qu'on se voit,
oui.
Je pense. Si on s'est vu avant, c'était par accident ou sans le savoir. Dites-moi, Madame Barre, quand on parle de la première édition de la Journée de la sériculture du Transcontinental, parlez-nous de la naissance, finalement, de ce besoin-là de permettre à des gens du domaine de la sériculture de se rencontrer, et dans le transcontinental particulièrement.
Bien, c'est que dans le transcontinental, la sériculture, il ne faut pas se le cacher, c'est un moteur économique très, très important. Mm-hmm. Puis eux, ils n'ont comme pas ressenti la pandémie, ça fait que ça a continué de rouler comme avant. Puis, il y avait plusieurs organisations qui, comme le MAPAC, qui organisaient des journées qui ont lieu en février. On voulait pas venir en concurrence, mais on sentait que ces gens-là avaient besoin de se voir, ils ont besoin d'avoir des activités pour eux, pour se rencontrer. Puis, tout est pas mal sur le neutre, hein? Fait qu'on a profité qu'il y avait une petite accalmie pour leur organiser quelque chose. Puis c'est aussi dans le mandat de la CODE d'animer le milieu économique du transcontinental.
Okay. Parce que là, ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que ça concernait les acériculteurs du transcontinental seulement. C'était fermé, là?
Oui, oui. C'était une activité qui avait lieu sur invitation qu'on a faite pour notre secteur.
OK. Ça m'intrigue. Pourquoi seulement pour ce secteur-là? Alors qu'on sait qu'il y a des érablières dans le Jal, il y en a, je veux dire, dans la proximité, mettons sur, je sais pas, moi, là 75-80 kilomètres carrés, là.
Premièrement, c'était une première édition.
C'est pas un reproche, c'est une question.
Bien, je réponds à votre question. Oui, c'est vrai qu'il y en a partout, des érablières. Dans la MRC de Témiscouata, il y a de la sériculture dans les 19 municipalités du Témiscouata. Ouais. Il y en a aussi dans les 4 municipalités du Transcontinental. Mm-hmm. Puis nous, la CODET, on agit pour notre secteur, c'est le transcontinental. Pour une première édition, on a dit on va le faire pour notre secteur. On verra, qui sait, dans le futur, ça pourrait peut-être s'étendre.
Moi, on m'a toujours dit, puis j'espère qu'on ne se trompait pas, parce que c'est ce que je crois depuis de nombreuses années, que la plus grande concentration d'érables au Témiscouata, au transcontinental, et probablement dans le Bas-Saint-Laurent, c'est Saint-Athanase.
Je pourrais pas vous donner de chiffres, mais je le croirais moi aussi. Ouais. Là, on va essayer de fouiller ça.
Pourquoi avoir fait rencontrer ces gens-là alors qu'on pourrait penser, a priori, qu'ils se connaissent très bien?
Ils se connaissent, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'occasions de se rencontrer. Puis le but de la rencontre aussi, c'était de donner de l'information et de les mettre en relation, parce qu'on a eu des partenaires extraordinaires là, pour organiser ça. Là. Puis toutes les personnes que j'ai interpellées, là, ils ont toutes répondu présents. Il y avait la MRC, la SADC, le Club d'encadrement technique en acériculture, le Créneau. On avait la commission scolaire au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, le Centre d'études collégiales du Témiscouata, le Cégep de la Pocatière, le MAPAB, les PPAQ, producteurs et productrices acériculteurs.
Comment on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ça sous forme de kiosque, de conférences?
C'était des conférences. Okay. C'est ça. Puis on a eu aussi une présentation de la distillerie de Témiscouata qui viennent d'ouvrir leurs portes. Ça a été très, très intéressant.
Je présume que c'est très bien accueilli par tout le monde, mais particulièrement dans le transcontinental, cette offre qu'on va faire de former des personnes à la sériculture via l'antenne collégiale au Témiscouata. Là.
Oui, parce que c'est une AEC en gestion et optimisation d'entreprises acéricoles. Puis maintenant, les érablières, c'est des grosses business. Là. Mm-hmm. Ça prend des connaissances en gestion.
On comprend très bien. Quelles sont les appréciations que vous avez eues de cette rencontre-là de la part des principaux intéressés? Combien il y avait de personnes là?
Il y avait 68 personnes.
Quand même.
Dont une grande, grande majorité d'acériculteurs, des équipementiers, des gens des municipalités, puis il y avait les partenaires de l'événement. Puis on a fait compléter un sondage dans l'événement, puis 100% ont dit avoir été satisfaits de l'édition.
C'était pas beau samedi? Auriez-vous pu avoir plus de monde que ça, d'après vous?
On en avait 72 d'inscrits, puis il en est venu 68.
Ben, coudonc.
On est très, très, très heureux.
Très intéressé. Dites-moi, Madame Barre, quels sont les principaux dossiers à venir pour la Corporation de développement économique du transcontinental?
Bien là, c'est sûr qu'en fin d'année, on est à faire notre bilan de l'année, là, ce qui a été réalisé par rapport au plan d'action. Puis ça n'a pas toujours été facile à cause du contexte sanitaire. Ouais. Au début d'année, on va établir nos priorités, faire notre plan d'action, faire notre calendrier d'activité aussi. Mais nos plans, nos secteurs où on est actif, bien, c'est surtout trois grandes lignes, là. L'accompagnement des entreprises, l'accompagnement entrepreneurial là, pour le démarrage puis l'expansion. Oui. On a deux beaux projets présentement là, dont je ne peux pas trop vous parler parce que c'est confidentiel, mais un qui est agro-touristique puis oui. un qui est récréo-touristique pour le secteur du transcontinental. Mm-hmm. On a aussi la route des frontières, parce que nous, à la corporation, on est gestionnaire de la route des frontières. Fait qu'on veut mettre de l'animation, on veut que ça soit coordonné aussi, là, pour pas que toutes les municipalités de la route aient des activités en
ouais.
même temps.
Oui, oui, oui.
Donc,
ouais.
C'est ça, on va faire la promotion de ça. On a tout refait les outils l'été dernier, site web, matériel promotionnel qui est distribué dans les bureaux d'accueil, là. Fait que c'est ça, il y a la route qui est une partie importante, puis l'animation du milieu économique, là, si on peut repartir là, des formations, ouais. déjeuner.
Est-ce que c'est difficile, Mme Barre, de trouver à développer des créneaux qui vont attirer, qui vont faire en sorte que on va faire très volontairement le détour pour prendre la 289? Et je m'explique. Avant l'arrivée de la brasserie Le Secret des Dieux, une des raisons pour lesquelles tu pouvais prendre la 289, c'était pour aller à la plage ou ce qu'on appelait dans le temps la base de plein air qui est devenue Pointe-Négamouque Santé plein air. Ou encore, aller magasiner chez Levasseur. Et puis en profiter tant qu'à être là pour prendre du gaz pas cher. Je dirais que l'offre de service, c'est raffiné, c'est amélioré. Mais il reste encore du travail à faire. Comment vous pouvez élaborer des nouveaux axes alors qu'en réalité, c'est un peu comme la poule et l'œuf? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit développer des activités pour qu'ils viennent du monde ou on va attendre qu'ils viennent du monde avant de développer des activités? Ça me semble complexe en tout cas.
Oui, c'est assez complexe, mais je pense que ça peut s'enchaîner, là. Le fait qu'il y a la microbrasserie, bien, ça l'amène un certain achalandage dans le milieu. Il y a Amouraska aussi, le vignoble, qui est à Saint-Alexandre, qui est une belle offre. La plage, comme vous dites. La gare de Rivière-Bleue aussi, qui a obtenu là, son agrément comme musée. Oui. Donc, ils vont profiter de subventions pour pouvoir développer eux aussi. Puis, je pense qu'il peut s'ajouter des choses là, avec en allant vers le Témiscouata aussi.
Honnêtement, avec vous, à Amouraska, j'y avais pas pensé. La vieille gare de Rivière-Bleue, je ne l'ai pas nommée parce que je me suis dit, c'est quand même une clientèle spécialisée. Si l'histoire ferroviaire du transcontinental ne t'intéresse pas, c'est sûr que tu n'arrêtes pas là. J'y suis allé dans mes exemples très large public, tu sais, prendre une bière, la plage. Mais c'est pas facile quand même. Avec un réseau routier qui, heureusement, s'est amélioré.
Beaucoup.
Faut le dire, là,
oui.
Parce que pour parcourir ces routes-là en moto l'été, ça s'est grandement amélioré. Puis il y a de la place à une offre touristique bonifiée.
Oui, du côté du tourisme gourmand, entre autres,
oui.
Je verrais le développement beaucoup de nouvelles offres. Il y a peut-être de quoi ça tape de ce côté-là. Puis le van life aussi, là.
Oui.
Vous parlez de la moto, là, oui, c'est vrai que la 289, la route des frontières, c'est un beau circuit à faire en moto, puis vous pouvez continuer sur la route des Monts Notre-Dame, pour aller ressortir
sur la route des navigateurs. On connaît le chemin, là.
C'est ça, mais il y a de la place pour développer de l'offre gourmande, d'après moi, là.
Tout à fait. Parce que l'axe naturel, ben on le sait, là, c'est la 85 et de moins en moins la 185, mais l'axe naturel, c'était ça. D'ailleurs, on a fait des campagnes promotionnelles pour inviter les gens à prendre la 289, d'aller voir ailleurs.
C'est
finalement
beaucoup plus beau.
Ouais.
C'est beaucoup plus beau, point de vue panorama, puis ça permet des arrêts. Quelqu'un qui n'est pas pressé, là, c'est beaucoup plus intéressant de passer par les routes secondaires.
Absolument, vous avez raison. Dites-moi, campagne d'achat locale, comment on articule ça, là?
Ben, on en a déjà deux de faites cette année. On a fait une campagne en mars qui était pour repartir un peu après le confinement. On a eu notre vent de soleil en juillet qui a été un très, très gros succès là, avec 22 entreprises partenaires. Puis on avait innové là, cette année en sortant un passeport. Là. Les gens devaient visiter 4 commerces au moins pour participer à un tirage de prix qui était remis par la Codette. Ça a marché beaucoup. On a recueilli, je pense, 362 passeports là, en 3 jours.
Ah oui.
Puis on a fait 3 gagnants là-dessus. Là, pour Noël, ben on fait pas tirer nécessairement de prix. Là. On va faire une campagne publicitaire à la radio pour promouvoir l'achat local au Transcontinental pour tous les besoins des fêtes, là, pas juste les cadeaux, quand on parle d'alimentation, etc. Ouais. Puis on incite nos entreprises à mettre une ambiance de Noël chez eux par des décorations, de la musique. S'ils veulent faire des promotions à l'interne aussi, on va les supporter là-dedans en publicisant leurs choses sur la page Facebook. C'est comme ça que ça s'enlève.
Et est-ce que vous avez songé, ne serait-ce que pendant une minute, à on s'aperçoit que ça revient en force, cette monnaie locale que mettent de l'avant certaines que ce soit des associations de marchands de centre-ville ou encore de on l'a vu dans Charlevoix d'ailleurs, là, c'est la plus populaire, puis il y en a une autre après, là, je me demande où est-ce que c'est.
Je sais qu'il y en a une à Saint-Jean-de-Dieu aussi,
ouais,
ça
probablement,
fait plusieurs
probablement,
années que ça existe. Là,
est-ce que c'est un mode qui pourrait vous intéresser?
Oui, on y a pensé. Ouais. On a regardé un peu l'avenue des cartes où on accumule des dollars, mais c'est compliqué parce que les marchands n'ont pas tous le même fournisseur au niveau de la machine, là, TPV.
Oui, oui.
Puis quand on a fait nos promotions d'achat local, ben, ce qu'on remettait en prix, nous, c'était vraiment des dollars transcontinentaux. Les gens pouvaient les dépenser dans les entreprises de leur choix, membres ou non de la Codette.
Oui.
Fait que c'est là-dessus qu'on avait été. Mais on n'exclut pas ça, c'est quelque chose qui va être envisagé.
Madame Barre, merci beaucoup.